spécial départemental sur CFM Cahors avec deux candidats au canton des Marches du Sud de Quercy. Il s'agit de Catherine Marlas. Bonjour Catherine Marlas.
Bonjour.
Et de Dominique Marin. Bonjour Dominique Marin.
Bonjour.
Vous êtes de la liste Le Lot en commun. Catherine Marlas, c'est votre, vous êtes sortante. Dominique, c'est votre premier mandat. Est-ce que je peux vous demander une rapide présentation, s'il vous plaît? Qui commence, Catherine?
Pourquoi pas. Donc, Catherine Marlas, 57 ans. J'habite le canton des Marches Sud Quercy depuis plus de 30 ans maintenant et je suis vice-présidente du département du Lot en charge de l'environnement et du patrimoine et présidente du parc naturel régional des Causses du Quercy. C'est mon unique mandat et je suis sinon chef de service éducatif dans un centre d'insertion, une association d'insertion et j'ai fait le choix de prendre un sans-solde de manière à pouvoir exercer mon mandat correctement.
D'accord. Dominique Marin.
Alors moi, j'ai 63 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, deux garçons et cinq petits-enfants qui comptent énormément. J'ai une carrière, alors je suis retraité depuis juillet, d'une carrière assez variée, aéronautique, industrie automobile, immobilier. J'ai fini dans la négociation raisonnée, formateur en négociation raisonnée. Et donc, c'est mon premier mandat en tant que maire de Castel-le-Montratier-Saint-Alozy depuis un an. Et donc j'ai décidé de m'engager complètement.
Alors, dans ces départementales, dans ces élections, il y a un enjeu, effectivement, c'est de pouvoir assurer donc, ce que fait la liste sortante, celle dont vous faites partie actuellement et dont vous êtes sortante aussi, hein, Catherine Marlas, hein, je le reprécise. C'est quoi le département du Lot pour vous? Il y a des atouts, il y a des... Comment il se porte?
Il se porte bien, le département du Lot Et le département, en fait, c'est surtout... son ADN, c'est la solidarité. Et on la décline tout au long de dans toutes nos politiques publiques. Mais effectivement, c'est un département qui est attractif, avec des paysages magnifiques. Il a d'ailleurs la particularité d'avoir en son sein un parc naturel régional, les Causses du Quercy, qui est aussi géoparc mondial UNESCO depuis 2017.
Qu'est-ce qu'il faudrait changer d'après vous ou fortifier dans le département? Parce que depuis le début du mandat, les choses ont quand même changé. Cette année, c'est vu une grosse crise sanitaire qui peut-être met à mal les finances, vu le nombre effectivement de frais qu'il y a eu. Dominique Marin, vous en pensez quoi?
Alors, finances, c'est surtout, vous parlez de crise sanitaire, santé. Et moi, ce que je ressens vraiment, c'est un problème au niveau de désertification médicale. Et ça, c'est quelque chose qui s'amplifie. Et à mon avis, il faut qu'on ait une action forte là-dessus.
Quoi? Concrètement, qu'est-ce qui pourrait être...
Concrètement, on s'est posé la question... moi, je me suis posé la question, comment intéresser des médecins à venir s'installer dans nos villages? Alors évidemment, il y a la douceur de vivre, la qualité de vie dans nos villages. À mon avis, ça ne suffit pas. Et comme attrait, il y a, à mon avis, un attrait aussi quant au fonctionnement. Et je pense que le fonctionnement du salariat peut attirer des médecins.
Vous voulez dire donc fonctionnement du salariat, pour que les auditeurs comprennent bien, ils sont dans une maison de santé payée par le département?
Alors, en réalité, il y a deux structures. Il y a la maison de santé pluridisciplinaire qui intègre des médecins libéraux qui prennent des stagiaires internes. Seulement, on peut faire une maison pluridisciplinaire de santé à condition que les libéraux soient d'accord pour faire ça. Et il y a le centre de santé, et là, qui intègre des médecins qui sont salariés du centre de santé, comme un administrateur qui est aussi salarié du centre de santé et un secrétariat. Et là, c'est une gouvernance ou associative qui peut être composée de l'équipe de soins primaires, par exemple, de la collectivité, puis peut-être d'autres associations qui sont sensibles à la santé. Évidemment, la charge financière, s'il y a charge financière, ça sera la charge de la collectivité qui prendra en charge ça. Mais là, je pense vraiment qu'on peut justement travailler avec les différents étages, quoi. Les municipalités, intercommunalités et le département.
Ça, c'est quelque chose que vous voudriez mettre dans votre canton?
Ah oui. Ouais.
De toute façon, je pense que c'est lutter contre la désertification médicale, c'est un enjeu, hein, aujourd'hui. C'est un enjeu d'abord parce que pour les habitants d'aujourd'hui et puis pour ceux de demain aussi, on sera d'autant plus attractif qu'on amènera aussi tous ces services à la population. On mène déjà des actions. On essaie d'attirer, de faire découvrir, on fait découvrir notre territoire à des internes, en médecine. C'est des actions qui vont s'amplifier. Mais effectivement, il est important aussi qu'on travaille avec la proximité, le terrain, les collectivités proches, hein, au plus près du terrain, et les acteurs de la santé, de manière à coordonner les choses et à pouvoir proposer ces services à la population dans nos territoires. Je pense que le département, comme dans beaucoup d'autres politiques, peut à nouveau jouer son rôle de coordonnateur un peu, des différentes actions.
Le département est le premier département, c'est le département le plus vieux de France, ça y est, selon les derniers chiffres, on vient de dépasser même la Creuse. C'est un atout, c'est une faiblesse, d'après vous ?
Je dirais que c'est un atout et une faiblesse à la fois. L'atout, c'est effectivement qu'on vit bien, chez nous. C'est clair, hein, on a beaucoup de Lotois qui sont aussi partis faire leur vie professionnelle ailleurs et qui reviennent, passer leur retraite ici. Il y en a qui font le choix de venir s'y installer. Mais toute la politique d'attractivité qui a été mise en place par le département vise aussi effectivement à attirer de nouveaux actifs. Et la crise du Covid peut effectivement... a fait voir aussi que nos territoires pouvaient accueillir de jeunes actifs pour télétravailler, notamment.
Le département a sa carte à tirer, alors.
Complètement.
C'est clair. D'ailleurs, on l'a ressenti, au niveau des municipalités, d'ailleurs. On a ressenti que des gens s'étaient ouverts cette possibilité de télétravail, par exemple. Et qui dit télétravail, dit pourquoi ne pas vivre dans un endroit plus agréable. Et on le ressent vraiment. Alors, évidemment... Il faut que les outils soient là, donc d'où la fibre. Et on a la chance que la fibre, justement, est en train de s'installer fortement. Alors là, on va peut-être être aussi le plus vieux, parce que je pense qu'on est parmi les premiers à l'installer aussi avec autant d'énergie. Et ça fait partie du succès aussi.
Comme le département du Lot a été le premier à instaurer aussi des aides pour l'achat aux véhicules propres. Donc du coup, ce sont des choses qui attirent cet environnement qu'il y a autour de nous. Comment faire pour le préserver ?
On concilie les enjeux. Je pense qu'on peut tout à fait mener une politique offensive de développement, tout en ayant en tête la préservation de l'environnement. C'est pas antinomique, il suffit de le faire intelligemment et en mettant surtout tous les acteurs autour de la table. Je pense que c'est ce que nous faisons. Le succès effectivement du dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules ou de vélos assistance électrique, effectivement on le voit, ça vient marquer effectivement cet intérêt aussi pour les mobilités douces, pour le vélo, hein, et je pense que ça va permettre aussi un lien avec le développement des voies vertes. Pour certains qui sont en proximité de bourgs importants, de pouvoir aller au travail à vélo en toute sécurité.
Est-ce que justement, on est en toute sécurité sur les routes ? Est-ce qu'il y a des aménagements à faire aussi sur les routes ? Parce que c'est bien de vouloir...
Oui, c'est sûr. Alors, on n'est pas dans un département où c'est facile à faire.
Ouais. Mais ça tourne.
Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que c'est impossible. Et donc, moi, je pense vraiment que je suis un peu l'adepte du pourquoi pas. Pourquoi ce n'est pas possible ? Et puis, on prend ensuite chaque sujet. On traite chaque sujet pour que ça devienne possible. Et donc... On peut partir des centres-bourgs, par exemple, et puis s'en écarter gentiment jusqu'à en ayant des voies de mobilité douce. Et puis après, avoir un petit peu plus d'ambition. Mais évidemment, ça prendra du temps. Mais c'est évident qu'il faut aller dans ce sens-là.
Si je peux compléter, j'ai envie de dire, en fait, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et on voit bien, quand on sillonne nos routes aujourd'hui, on trouve des personnes, ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, qui... ont élargi leur périmètre de chalandise, justement, de course, hein, pour faire les courses, parce qu'il y a ce déplacement à vélo à assistance électrique. Et effectivement, nous avons pour projet de réfléchir les futurs aménagements routiers ou même les renouvellements, à un moment donné, quand tu auras à retravailler, à reprendre les chaussées, en ayant en tête cette mise en sécurité des personnes qui utiliseront ce système de mobilité.
L'environnement, il y a la voie verte, mais il y a aussi par le transport en train. On a l'impression que ça rame encore un petit peu, qu'il y a effectivement une volonté de faire quelque chose au niveau des trains. Et puis finalement, on a l'impression qu'il y a des bâtons dans les roues, alors qu'ils ne viennent pas forcément du département. Hein, ça peut venir ou de l'État ou même de la SNCF en elle-même, qui plusieurs fois a un petit peu bloqué tout. Quel est le rôle du département à ce niveau-là, d'après vous ?
D'aiguillonner, mais... on n'est pas tout seul, hein. Effectivement, le fameux POLT, là, Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, on en parle depuis des années. On va moins vite aujourd'hui en train de Cahors à Toulouse, de Cahors à Paris qu'on ne faisait avec le Capitole quand il y avait Toulouse-Paris. Donc je crois qu'effectivement, il est grand temps que la SNCF prenne ses responsabilités. La région les prend. Il faut qu'on pousse tous pour effectivement désenclaver cet axe central de notre pays. C'est un réel enjeu d'aménagement du territoire.
C'est le prochain combat, d'après vous, à faire, à mener ?
Oui, il est déjà enclenché, puisqu'on on s'est déjà positionné à plusieurs reprises, hein, et on a encore adopté une motion lors de la dernière plénière. Donc oui, ça fait partie des sujets qu'il faut continuer de mener. C'est des combats de tous les jours, mais je pense qu'on sera d'autant plus fort qu'on sera aussi appuyé, qu'on se sentira soutenu par les Lotoises et les Lotois.
D'accord. D'où votre présentation à cette liste, alors, du coup.
Ah oui, oui.
Dominique Marin et Catherine Marlas, je vais vous laisser une minute pour vous exprimer sur le sujet que vous voulez, pour dire ce que vous avez envie de dire.
Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai peur que les gens ne s'intéressent pas assez à ces élections. Et c'est vraiment un effort de chacun à s'intéresser et puis à simplement aller voter. Pas forcément. Enfin, nous, on offre un choix, évidemment. Il y a plusieurs choix et les gens sont tout à fait libres de faire leur choix, mais qu'ils fassent un choix.
Catherine Marlas, en 30 secondes.
En 30 secondes, le département, en fait, c'est notre quotidien. Donc, il faut effectivement aller voter. C'est important. C'est pas un enjeu national, c'est un enjeu local, très local. Et le département vous accompagne tout au long de votre vie.
D'accord. Et on rappelle que les élections, c'est donc le 20 et 27 juin. Et c'est bientôt, d'ailleurs, entre parenthèses. Catherine Marlas et Dominique Marin étaient donc nos invités. Vous êtes candidat dans le canton des Marches du Sud-Quercy. À chaque fois, je mélange Quercy et Sud. Là, j'ai tout dit dans l'ordre. C'est bon.
C'est bon.
Merci beaucoup, Dominique Marin. Merci beaucoup, Catherine Marlas.
Merci à vous.
Merci.